C'est dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 16. Colossiens chapitre 3 et verset 16. Un verset tout simple, en même temps très important. Et s'il y a bien quelque chose que je vous invite à retenir ce matin, ça va être ce verset-là, puis à essayer de le mettre en pratique, bien sûr. Colossiens 3,16, on y lit ceci, « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. » Amen. « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. » Alors, je vais t'inviter à te retourner vers un voisin, une voisine, et puis lui faire cette déclaration, « Que la parole de Christ demeure en toi dans toute sa richesse. » Allez-y, je vous mets au travail ce matin. Parlez à votre voisin, vous trouvez un voisin, à droite ou à gauche, devant ou derrière, que la parole de Christ demeure en toi, dans toute sa richesse. Ça va ? Et maintenant, vous allez le dire pour vous-même. Que la parole de Christ demeure en moi, dans toute sa richesse. C'est une belle déclaration. Hein, c'est aussi une demande que l'on fait quelque part au Seigneur. Alors, quelques mots sur ça. Demeurer quand même, hein. Le mot est fort, hein, que la parole de Christ demeure. Demeurer, c'est vraiment résider. Ça veut vraiment dire que cette parole, quelque part, elle n'est pas simplement une parole qui va nous effleurer, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est vraiment une parole qui va nous impacter durablement. Et en cela, on a besoin, je dirais, non seulement de lire l'Écriture, lire cette parole de Christ, c'est toute l'Écriture, évidemment, et on a aussi besoin, quelque part, de la méditer, hein, pour que cette parole, elle puisse demeurer et rester dans notre cœur. Hein, on est, quelque part, un peu des ruminants, on pourrait dire ça comme ça, sur le plan de la parole de Dieu. On est des ruminants, et on est appelé, justement, à faire en sorte que cette parole demeurant et résidant en nous finissent par donner toute sa substance. Amen. Hein, c'est vraiment important. Je dis ça parce que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait un pasteur, je devais avoir 6, 7 ans, 8 ans, il disait souvent, un conseil qu'il donnait à l'Église et au peuple de Dieu, il disait souvent, ne vous mettez pas à lire, méditez. Il dit, vaut mieux que vous lisiez quelques versets et que vous les méditiez, que de lire des grosses quantités et que ça soit quelque part presque un survol finalement. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors la lecture, elle est bonne, elle est nécessaire. Et même le survol fait du bien. Mais le fait de s'arrêter sur des textes et de les méditer personnellement, ça va vraiment former et fortifier votre cœur dans le Seigneur. Cette parole du Seigneur, elle est riche. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas simplement nous donner, je dirais, ses instructions dans tel ou tel domaine de l'existence, mais il veut donner son instruction dans toute sa richesse, dans toute la mesure de cette parole. Et cette parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour nous, elle touche notre être tout entier. Elle nous touche de la tête jusqu'aux pieds. Dans tous les domaines de notre existence, le Seigneur a quelque chose à nous dire, amen, à quelque chose à déposer en nous. Cette parole, elle va nous construire, elle va nous transformer. Dans la Bible, on a cette notion qu'on retrouve, qu'on a souvent traduite par logos et rhéma, hein, cette parole logos, cette parole rhéma. Le logos, c'est cette parole, je dirais, un petit peu de base, finalement, qui vient nous instruire. On pourrait parler ici de théologie même systématique, c'est-à-dire d'un enseignement qui est structuré. Et cette parole du Seigneur, elle a cette vocation dans nos cœurs de structurer notre pensée, de structurer notre compréhension des choses, notre philosophie, notre mentalité au final. C'est comme une sorte de programme logiciel, hein, au final, on pourrait presque dire ça comme ça. Que le programme de Dieu, que la pensée de Dieu soit sur nous dans toute sa richesse, pour que justement ce logos nous structure et nous transforme. Et puis il y a aussi cette parole rhéma. La parole rhéma, ça va être la parole que Dieu va nous dire à certains moments de manière tout à fait spécifique, tout à fait à propos. Et quand on lit l'Écriture à la maison ou même dans l'Église, quand on lit l'Écriture à certains moments, on va vivre, on va expérimenter cette parole réma, c'est-à-dire cette parole que l'Esprit de Dieu va prendre, parfois même vraiment en dehors de son contexte, même de l'Écriture, pour nous dire quelque chose à nous de manière particulière. Qui est-ce qui a déjà vécu ça? Je suis sûr que pas mal de mains vont se lever. Et je voudrais vraiment nous encourager ce matin à nous attacher à cette parole de Dieu, cette parole écrite, à ce logos, parce que alors que nous sommes en train de la lire, en train de la méditer, en train de l'ouvrir tout simplement dans nos maisons, dans notre chambre, dans le lieu un peu privé qu'on a prévu pour le Seigneur et nous à la maison, eh bien dans ces moments-là, eh bien il y a cette parole réma qui va à certains moments faire jour. Je vais vous donner un exemple ici que j'ai vécu et qui va illustrer ça de manière assez claire et assez forte. Et ça remonte à 17 ans, jour pour jour. Hein, c'est quand même incroyable. Il y a 17 ans, jour pour jour, c'était un dimanche, et c'était le 26 novembre de l'année 2000. Et ce jour-là, comme c'était un dimanche, j'étais à l'église, j'étais au culte, et on avait un pasteur africain qui était venu pour nous apporter la prédication. Et ce pasteur africain commence en lisant l'Écriture. Et dans l'Écriture qu'il lit, il y a à un moment donné cette phrase qui va être mentionnée, et que je lis d'ailleurs à ce moment-là en même temps que le pasteur, 1 Corinthiens 16, 13, ne le prenez pas, c'est écrit ceci, « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et il avait lu quelque chose comme 4 ou 5 versets. Mais au moment où cette phrase a été lue et que je l'ai lue en même temps que le pasteur, il y a cette petite phrase « Soyez des hommes » qui m'a littéralement punché, on pourrait dire ça comme ça. C'est cette fameuse parole réma. Boum, elle est sortie. Et intérieurement, je sentais bien que Dieu me parlait de manière particulière. « Soyez des hommes ». Et j'étais là, je me disais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» J'avais 27 ans à l'époque. Sincèrement, je m'interrogeais. Parce que, au-delà de tout ce que le pasteur pouvait dire, cette parole-là était une parole vraiment sortie et que Dieu me transmettait particulièrement. « Soyez des hommes. » Et j'étais là en train de réfléchir. Je me dis « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire ?» Alors je me pose la question, est-ce que j'ai encore des comportements d'adolescent ?« Soyez des hommes. » Donc ça sous-entendait que j'étais peut-être encore un ado. Alors je passais un peu ma vie en revue là, intérieurement, je dis « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose ?» Et puis, alors que le pasteur prêche, ce que je fais, je pense jamais ou très rarement pour le coup, je me retrouve avec ma Bible comme ça, le pasteur prêche et je fais ça, comme ça. Et mes yeux tombent sur un passage biblique directement, qui se trouve dans 1 Roi chapitre 2, au verset 2, sur la dernière moitié du verset 2. Et là, je lis quoi? Je tombe sur cette phrase. « Fortifie-toi et sois un homme. » Deuxième fois. Là, je me suis dit, là, Matthieu, Dieu est en train de te parler, là. Il se passe quelque chose. Et donc, je suis intérieurement en train de vraiment m'interroger. Je lis courtement le verset qui se trouve donc autour de cette parole de un roi. Et voilà ce qu'on y lit. « David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Et donc, ça me fait réfléchir. Cette parole réma, elle est placée, j'ai envie de dire, doublement sur mon cœur. Et alors que je suis en plein culte, en train d'écouter le pasteur, quelqu'un vient me voir, un des frères de l'église qui est maintenant décédé, Jules Segar, et il me dit « Matthieu, il y a quelqu'un qui veut te voir dans le couloir de l'église. » C'est quand même assez rare. Alors je sors et je vais dans le couloir de l'église. Et là, qui je vois? Je vois mon oncle Guy, qui habite Caudry, qui arrive, qui ne met jamais les pieds dans l'église. Et il vient m'annoncer que mon grand-père vient d'avoir un accident vasculaire cérébral et que mon grand-père est sur le point de mourir. Et qu'en fait, le diagnostic de l'hôpital s'est terminé. Et en effet, mon grand-père est mort ce jour-là. Et là, la parole précédemment reçue, « Fortifie-toi et sois un homme », a fait, je dirais, l'usage comme d'un bouclier qui encaisse quelque part cette nouvelle subite. On n'attendait absolument pas que mon grand-père meure. Ce n'était pas du tout dans le programme. Il voulait vivre 100 ans, il est parti à 80. En pleine forme, à l'exception de cet AVC, évidemment. Vous voyez ? Parole Réma. C'est un simple exemple pour nous dire que Dieu nous parle, tantôt d'une manière d'ailleurs, tantôt d'une autre, mais qu'au travers de sa parole, eh bien, le Seigneur est en capacité de nous parler, de nous prévenir, de nous garder aussi. Et je pense que si je laissais la parole à plusieurs, plusieurs pourraient dire, ben moi j'ai vécu ceci, moi j'ai vécu cela, un jour c'est pareil, il y a une parole directe qui m'a été adressée par la parole de Dieu, et cela m'a construit, cela m'a aidé. Ce que je veux dire en disant ça, et c'est tout le but de ma prédication de ce matin, que la parole de Christ demeure en toi, dans toute sa richesse, en d'autres termes, que tu puisses aussi toi-même t'alimenter de cette parole régulièrement, parce que c'est au travers de cette parole que tu vas être gardé, protégé, construit, vivre le Réma, mais vivre également le Logos du Seigneur. Amen. Ça va ? Alors, on est en effet invité à lire cette parole du Seigneur, parce que, en partie, c'est un commandement aussi qui nous est donné. Josué 1,8, on le connaît ce verset-là, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est le Seigneur qui le dit à Josué. Quelque part, on peut l'entendre aussi résonner pour nous, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Vous connaissez l'histoire de la Bible qui part en vacances ? Ça, quand on part en vacances, généralement, on prépare nos bagages, on met nos vêtements, etc., etc. Puis la Bible, elle est là, et la Bible, elle est prise, et elle est mise dans la valise. Et elle se dit, chouette, on part en vacances, c'est formidable, on va voir plein de choses. Et puis, les gens arrivent dans leur lieu de villégiature, et puis la Bible, elle est là, elle est toute contente, etc. Et puis, bon, la valise s'ouvre, et puis il y a des vêtements qui partent, il y a tout ça. Et la valise... Elle est là et la Bible elle reste dans la valise. Alors, premier jour, elle se dit, demain, c'est pas grave, demain, je vais pouvoir. Et puis, le lendemain, finalement, elle est toujours encore le lendemain dans la valise et elle va passer les 2 semaines de vacances dans la valise et la valise se referme à la fin des vacances et elle retourne à sa première place. Elle se demande pourquoi je suis parti en vacances. Ça nous est tous arrivé, non ? Parfois, c'est ce qui se passe. On a l'intention, n'est-ce pas ? Moi, le premier, on a l'intention, mais on n'arrive pas toujours à mettre ça en œuvre, n'est-ce pas ? Et le Seigneur nous invite à faire en sorte que notre Bible, quelque part, ne s'use pas sur la table du chevet, ou qu'elle ne s'use pas dans la bibliothèque, mais qu'elle s'use vraiment avec le fait que nous l'ouvrons et que nous la lisons. Que la parole de Christ demeure en toi, en moi, dans toute sa richesse. Amen. Amen. Et c'est vraiment une exhortation toute simple ce matin pour nous mettre, je dirais, à l'écoute de cette parole. Cette parole, elle est aussi utile. Et c'est pour ça que c'est bon de la lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Parfois, on a l'impression que lire la Bible, ça sert peut-être à pas grand-chose dans certains cas. Et ça, c'est vraiment un mensonge de l'adversaire. Et on est appelé à comprendre que, alors qu'on va se connecter avec cette parole... Eh bien, elle va vraiment être utile. Elle va vraiment produire du fruit dans notre vie. Parce que, en fait, cette parole, en effet, ce logos va nous transformer de l'intérieur. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, recevez mes instructions. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a un dépôt de la parole de Christ en nous. Recevez mes instructions, Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Ce que ça veut dire, c'est que alors que nous recevons les instructions de la parole de Dieu, nous sommes transformés par ces instructions, notre pensée est réformée, notre mentalité est transformée, notre regard change et nous entrons dans le repos de notre âme. Nous entrons dans la paix de Dieu parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Lire la parole et la méditer, c'est important parce que aussi cette parole, elle est utile, on l'a dit, elle est aussi efficace. Et je vais m'arrêter sur ce verset de Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu, nous dit l'Écriture, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Cette parole, Dieu déclare qu'elle est redoutable d'efficacité en substance. Et en effet, cette parole de Dieu, elle va avoir la capacité de partager, et le terme grec ici, c'est un terme qui parle bien de séparer. Il y a à un moment donné un homme qui vient vers Jésus pour lui demander de faire le partage de son héritage. C'est le même terme ici, partager. C'est vraiment séparer. Elle vient séparer l'âme et l'esprit. Avec cette illustration des jointures et de la moelle. Alors, ce que le Seigneur va faire au travers de sa parole, c'est qu'il va en effet démêler en nous ce qui provient de l'âme et de ce qui provient de l'esprit. En réalité, ce qu'on peut comprendre, c'est que âme et esprit en nous-mêmes sont un petit peu, enfin sont pas qu'un petit peu, sont très entremêlés au point qu'on a souvent du mal à faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Pourtant, la parole de Dieu vient séparer ces deux éléments. C'est pas pour rien d'ailleurs au passage. La parole de Dieu, la lecture de cette parole, la méditation de cette parole va venir éclairer ton cœur pour que tu puisses discerner ce qui provient de ton âme et ce qui provient de ton esprit. Et ça va nous aider ensuite à fonctionner de manière spirituelle, et non pas de manière, entre guillemets, charnelle. Quand on se laisse, je dirais, conduire par notre âme, alors je pense qu'on est en danger. Si, par exemple, tu as le blues, et que tu reviens à la baraque avec le blues XXL, il y a des gens, tout simplement, il faut qu'ils trouvent quelque chose qui va les consoler. Donc, ils vont aller... C'est pas bien. Mais c'est ça. Dans certains cas, c'est l'état d'âme qui te conduit en fait au péché. Dans beaucoup de cas, c'est ça en réalité. Parfois, on est conduit complètement par le corps, et là, on peut parler d'addiction, mais dans beaucoup d'autres cas, on est en fait piloté par les besoins de notre âme. Notre âme a des besoins, et si on n'arrive pas à répondre à ces besoins par la vie de Dieu, par la vie de l'Esprit, on va chercher à combler cette vie par le mal, finalement, le péché, sans même s'en rendre compte. La parole de Dieu, elle vient séparer âme et esprit, comme il nous est dit, jointure et moelle. Alors c'est intéressant parce que la moelle, c'est dans les os. Et en fait, on a deux types de moelle. On a une moelle qu'on appelle la moelle rouge, qui se trouve, si vous voulez, au niveau de l'os, qui se trouve tout en haut de l'os, à l'intérieur. Et cette moelle rouge, elle sert en fait à fabriquer le sang. C'est source de vie en substance. Puis ensuite, on a une moelle qui se trouve, elle, à l'intérieur de l'os, qui est une moelle jaune, qui est beaucoup plus graisseuse, et qui sert, quand on a besoin de graisse, de manière un peu exceptionnelle, qui est capable de libérer de la graisse à partir de l'os. C'est quand même formidable. Et la jointure, c'est ce qui va, entre deux os, c'est ce qui va maintenir, en fait, les deux os joints, bien entendu, et qui va aussi permettre que les os puissent fonctionner correctement. La parole de Dieu, c'est quand même assez fort, nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est un peu comme s'il vient séparer la jointure avec la moelle. C'est-à-dire, il y a une capacité de on va dire, chirurgicale de visitation pour que les choses soient bel et bien mises dans leur ordre. On pourrait dire quelque part, si vous me permettez de dire ça, c'est que le Seigneur veut que la moelle, ce qui donne la vie, on pourrait l'imaginer peut-être, je me permets de le dire comme ça de manière allégorique, de l'esprit. L'esprit, c'est là où Dieu veut qu'on conduise notre vie, animé par son esprit, au travers d'une autre. Et pour que cela puisse fonctionner, il faut que vraiment ce qui fait l'articulation ne soit pas dominant et dominante. Imaginez maintenant que l'articulation de votre os, ici, soit complètement bloquée et dominant, et que vous ne puissiez plus, quelque part, vraiment faire fonctionner votre bras. Il va falloir qu'il y ait une intervention qui se passe pour que l'articulation puisse fonctionner correctement. Amen. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Sur le plan spirituel, on est dans une... Quelque part, on est un peu comme ça, si vous voulez. On est un peu bloqué parfois. Vous imaginez ? Et l'Esprit de Dieu vient pour délier finalement toutes les choses qui sont en nous. Je vais demander à Robert de venir et on va faire une illustration toute simple. Voilà, viens Robert. Imaginez que Robert soit l'esprit de l'homme. D'accord ? Alors Robert, ça c'est l'esprit de l'homme. Normalement, il est censé être au pilotage. D'accord ? Maintenant, moi, je vais être quelque part, je vais prendre l'image de l'âme, je suis un peu plus joufflu, vous voyez. L'âme, avec l'esprit, souvent, ce que ça fait ça. Vous voyez ? Et c'est souvent l'âme qui pilote et conduit l'esprit. Hein, par exemple, je suis dans la solitude. On m'a laissé tout seul. Oh, c'est pas juste. L'âme peut vraiment conditionner l'esprit. Et ce qui va se passer, merci Robert, donc normalement l'esprit se trouve finalement quelque part courbé, et l'action du Seigneur et l'action de la parole de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu va venir dans l'esprit humain pour intercéder par des soupirs inexprimables. Et ça, c'est quand en prière, porté par Dieu, on est en train d'exprimer quand l'esprit humain est en train de dire à Dieu, « Ah, Seigneur, regarde, je suis prisonnier, je souffre, mon âme domine sur moi-même et je suis en souffrance, libère-moi. » Ça va ? Merci Robert. Et c'est ce qui se passe. Normalement, dans la marche chrétienne, on doit passer par ces étapes où il y a une sorte de gémissement intérieur. Il y a un travail de fond qui s'opère en nous parce que justement, on a besoin, l'esprit a besoin de reprendre sa place et que l'âme a besoin d'être séparée vraiment précisément pour qu'elle puisse être à l'obéissance de l'esprit de Dieu agissant dans l'esprit de la personne. Amen. Et ça, ce travail-là, frères et sœurs, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Ça se fait et ça ne peut se faire que lorsque la parole de Christ demeure en toi dans toute sa richesse. Parce que c'est cette parole-là qui va venir mettre la lumière finalement dans ton cœur et qui va te permettre de dire et de comprendre et de discerner que tiens, hop, 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 là je suis en train de fonctionner non pas dans la pensée de Dieu, mais je suis en train de fonctionner avec l'état de mon âme. On connaît tous cette parole. Ils se levèrent pour se divertir. Vous vous rappelez de cette parole-là avec le veau d'or ? Ils se levèrent pour se divertir. En d'autres termes, le peuple de Dieu avait besoin de se divertir. Ça, c'était le besoin de leur âme en substance. Et le problème de ce besoin-là, mal négocié, mal géré, eh bien, ils se sont divertis en commettant le mal, alors qu'on peut très bien se divertir. Et on peut très bien donner de l'air à son âme, mais par la puissance de l'Esprit-Saint. Amen. Et dans les œuvres que Dieu lui-même veut. Quand Jésus va à certains moments tressaillir de joie, profondément, il y a une joie profonde qui le visite. Croyez-moi, son âme à ce moment-là, elle est très contente. Elle est très en forme. Elle est très nourrie. Parfois, on cherche le repos, frères et sœurs, et on ne le trouve pas. Pourtant, on s'est reposé. Mais on ne s'est pas reposé de la bonne manière. On s'est reposé d'une telle manière pour satisfaire momentanément notre âme, mais on ne s'est pas reposé comme le vrai repos pourrait nous le donner. Un vrai repos, souvent, ça se passe dans la présence de Dieu. Et l'âme est vraiment, on peut dire, réconfortée et reposée par sa puissance. La question de fond, pour nous aussi, par rapport à cela ce matin, c'est finalement, qu'est-ce qui pilote ma vie? Qu'est-ce qui est aux commandes? Est-ce que c'est mon corps? Dans quel cas, on a besoin de faire un gros travail, évidemment. Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon esprit? Et si c'est mon esprit, est-ce que c'est mon esprit éclairé par l'Esprit de Dieu? Et animé par l'Esprit de Dieu? Il y a vraiment du chemin ici à faire. Regardez un exemple ici qu'on a dans la Bible. On va le trouver. Ici, je vais le lire pour vous. C'est quand Jésus se trouve au jardin de Gethsémané. En agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva, et la Bible dit ceci, qu'il trouva endormis de tristesse. Endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Juste avant, il leur avait dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Les nouvelles que Jésus leur avait données étaient tellement attristantes, ce que Jésus leur avait annoncé à ce moment-là, sa mort, etc. Donc, ils étaient chargés de tristesse. Et quand Jésus leur dit, ben voilà, allez, veillez et priez, ils sont tellement tristes qu'ils n'arrivent pas, en fait, à obéir à l'injonction du Seigneur pour eux. Ils n'arrivent pas à mettre en route leur esprit parce qu'en fait, leur âme leur a mis le grappin dessus, on peut dire ça comme ça, et de tristesse, n'entrant pas dans l'intercession et la prière, ils finissent par s'endormir. Ça commence par l'âme et ensuite c'est le corps qui en est la victime. Donc tout ça, pour nous, ça va nous réclamer en fait de travailler dans nos vies. La solitude, par exemple, je le disais tout à l'heure un peu en illustration, mais c'est tout à fait ça. Le fait de se sentir seul à certains moments nous donne du mal-être au niveau de l'âme en général. Et ce mal-être-là, eh bien, on va chercher à trouver des solutions. Et parfois, ces solutions ne sont pas celles du Seigneur. J'aime beaucoup cette parole de Jésus qui dit « Vous m'avez laissé seul ». Et donc, Jésus a senti cette solitude. Mais il va se reprendre. « Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi ». Ça veut dire que dans les moments où on se sent seul, où on a le vague à l'âme, le blues ou le mal-être, eh bien, c'est peut-être là qu'il faut justement pouvoir déclarer « Vous m'avez laissé seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et en travaillant à cette communion avec le Père, vous trouvez en fait le fait que cette solitude n'est plus aussi marquée que sans cette présence conscientisée du Père céleste. Amen. Ça, c'est un chemin qui peut nous aider. Cette parole, donc Réma, Jésus va dire ceci, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est exactement ça, c'est le produit de ce travail-là, de cette parole-là. « Si donc le Fils vous affranchit, dira le Seigneur, vous serez réellement libres. » Et c'est vraiment ça que Dieu veut faire dans nos cœurs. Et pour que ça puisse être expérimenté et fait dans nos vies, ben, il faut qu'on puisse chacun les uns et les autres demeurer aussi dans cette parole, dans la lecture et dans la méditation. Quelqu'un a dit ceci, quand on lit la Bible nous lit aussi. Et c'est vrai. C'est vrai. Voilà, gloire à Dieu. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Très courtement, je vais simplement le citer pour pas être long, parce que ça parle de l'efficacité de cette parole. En parlant de l'utilité, de l'efficacité de cette parole, en fait, ce que je voudrais faire, c'est vous convaincre, avec l'aide du Seigneur, de demeurer et d'aller vers cette parole chaque jour à la maison, prendre du temps, même si c'est pas 2 heures, mais prendre du temps pour se nourrir et s'alimenter de cette parole afin que cette parole justement fasse son travail. La parole de Dieu, elle est créatrice. Il dit, nous dit la Bible, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. La parole de Dieu nous communique la vie. Jésus dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Quand on est en contact avec cette parole, c'est la vie qui vient jusqu'à nous. La parole de Dieu engendre la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au travers de cette parole, c'est ta foi qui va aussi grandir et être engendrée. La parole de Dieu nourrit et restaure notre âme, on l'a compris. C'est écrit dans le psaume, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alléluia! C'est merveilleux quand même. Hein, vous n'avez pas un meilleur psy en fait, hein, sincèrement. Et il y a beaucoup de psys qui en arrivent plus ou moins aux mêmes conclusions que ce qu'il y a dans l'Écriture. Simplement, quand tu fais le chemin, toi, avec ton Seigneur et avec la parole, finalement, quel chemin, quel progrès, quelle évolution et quelle libération en réalité. Je me disais ce matin en venant dans la voiture, je crois que le fait d'être chrétien et le fait d'appartenir au Seigneur nous fait énormément travailler sur nous-mêmes en fait. Si on n'avait pas ça, on vivrait notre vie sans se poser trop de questions. Mais parce qu'on a le Seigneur et parce qu'on a cette parole, on se pose des questions. On se pose aussi des questions sur nous-mêmes. Quand on lit les psaumes, par exemple, on apprend à exprimer les choses. On apprend à dire nos sentiments. Et si on n'apprend pas, ben on ne sait pas le dire. Grâce à cette parole, grâce au Seigneur, frères et sœurs, on a un privilège immense, c'est qu'on peut progresser dans notre être intérieur et dans notre âme. C'est mieux que tout, je le crois. Amen. Alors, pour terminer, que la parole de Christ demeure en toi, en vous, hein, dans toute sa richesse. On va se le redire encore une fois à son voisin, à sa voisine, après ce qu'on vient d'entendre. Que la parole de Christ demeure en toi, dans toute sa richesse. Et puis on se le dit à soi-même, que la parole de Christ demeure en moi, dans toute sa richesse. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette exhortation. Et Seigneur, je prie simplement que tu nous aides, Seigneur, les uns et les autres, à renouveler ou à trouver le chemin, Seigneur, les moyens de pouvoir régulièrement, Seigneur, à la maison en particulier, nous arrêter sur ta parole, Seigneur, et la méditer, afin que nous soyons transformés par elle, Seigneur, à ta gloire et à ton image, que nous puissions, Seigneur, être accomplis, alléluia, et propres à toute bonne œuvre, comme nous dit ta parole, par ta puissance, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.